Le miel, l'huile d'olive, les épices, les exemples de fraude alimentaire sont de plus en plus nombreux. Le microbiologiste Mark Hamilton fait le point et écoutez bien l'exemple très éloquent concernant le miel.
Ben, c'est une étude qui va être présentée au congrès de l'ACFAS, l'Association francophone pour l'avancement de la science, qui est en cours présentement à Saguenay. Ça concerne la fraude alimentaire. Ça concerne donc des produits qu'on achète comme du miel, du sirop d'érable, des tomates, de l'huile d'olive. Et il y a des entrepreneurs véreux qui veulent faire de l'argent sur notre dos et qui nous vendent donc des produits qui sont falsifiés, auxquels on ajoute des substances qui n'ont rien à voir avec le produit original. Alors, dans cet article que j'ai sous les yeux, qui provient de TVA Nouvelles, le chercheur, donc, qui est responsable de cette trouvaille, dit, regardez, dans le cas du miel, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'était pas capable de prouver qu'il y avait vraiment du miel frauduleux, du faux miel. Sauf que quand on a fait le compte, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'abeilles dans le monde pour produire tout le miel qui était vendu. Comprends-tu? Il y avait plus de miel que d'abeilles. C'est comme ça qu'on a su qu'il y avait du miel quelque part, qui était du miel, du faux miel, du miel frauduleux. Et donc, pour savoir un petit peu quel est l'état de la situation de ces fraudes alimentaires qui sont apparemment de plus en plus fréquentes, on va aller rejoindre Mark Hamilton, qui est microbiologiste et président des laboratoires Environex. Bonjour, Marc.
Oui, bonjour.
D'abord, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des fraudes alimentaires?
Ben, la fraude alimentaire, hein, on sait que c'est pas d'hier qu'elle existe. Elle existe depuis plus de 2000 ans. Écoutez, même dans le temps de Jésus-Christ, on fraudulait le vin, on rajoutait de l'eau dans le vin sans le savoir. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, on a des outils pour dépister la présence d'agents frauduleux dans les produits. On est capable de les analyser et dire, oh, ouais, c'est pas normal. Il y a donc bien plus de sucre que le miel conventionnel. Et aussi, on a accès à des statistiques qu'autrefois, on avait pas. Comme vous venez de dire, il y a bien plus de miel que d'abeilles, ces statistiques-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut quantifier ça. Mais la fraude alimentaire, comme on l'a aujourd'hui, elle devient de plus en plus sophistiquée. La raison est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus faire confiance aux gens, ou du moins, faut avoir très confiance ou pas du tout, parce que dans l'ancien temps, c'était facile d'aller voir un apiculteur puis dire « je vais acheter ton miel », puis il sort de la ruche puis il te le donne.
Ben
donc,
oui.
Le sentiment de confiance avec ton producteur, c'était facile. T'allais voir ton lait, t'allais voir ton sirop d'érable, tu faisais affaire directement avec la personne qui le produit. Aujourd'hui, ben, tu vas dans les tablettes d'épicerie, tu regardes le miel. Bon, produit de l'Allemagne, produit de la Chine, produit de l'Argentine. On parle la traçabilité de ce miel-là, à savoir qui l'a fait, de la manière qu'il l'a fait. Est-il rajouté du sucre? Il n'y a rien qui le certifie, qui fait qu'aujourd'hui, on est entouré de risques de fraude alimentaire.
OK. Donne-nous, mettons, les deux ou trois plus grandes fraudes alimentaires qu'on a connues, juste pour nous illustrer le problème, là.
Ben, écoutez, si on prend le problème de fraude alimentaire, le terme fraude alimentaire devient de plus en plus publicisé. Ça fait pas si longtemps que ça. On parle d'environ depuis l'année 2013. Avant ça, c'était plus des recherches scientifiques, des gens qui s'intéressaient à la chose, mais c'était pas publicisé. Il n'y avait à peu près pas de normes. Qu'est-ce qui est arrivé en 2013? C'est le scandale de la viande chevaline qui est arrivé en Europe. Où est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils diluaient la viande de bœuf avec la viande chevaline qui est environ 4$ de moins le kilogramme. Mais les gens donc faisaient le steak haché, rajoutaient du bœuf, ils s'en rajoutaient du cheval, ils s'en rendaient pas compte. Et un jour, il y a eu des études où il y a eu des plaintes, hein, des bouchers qui ont dit, écoutez, c'est pas 100% bœuf, il y a eu des stools, donc les gens se sont posé des questions, ils se sont découvert, oh, il y a un scandale de viande chevaline. Donc ça a été un des premiers scandales. Avant ça, il y a eu un autre scandale en Chine qui a été très publicisé aussi. C'est le scandale de la mélamine dans le lait. Donc, le fameux lait qu'on donnait aux enfants, mais pour en faire plus, ils ont rajouté une protéine qui s'appelle la mélamine. Cette mélamine-là, cependant, les gens qui n'étaient pas très très futés à l'époque, ils ont pris une protéine qui est toxique pour l'être humain et ça l'a tué beaucoup d'enfants.
Mais voyons donc.
Donc, Donc, le frauduleur, la personne qui fraude, en voulant faire plus de lait, en mettant une protéine apparentée à une protéine laitière, qui faisait qu'au goût, à l'apparence, il n'y avait aucune différence, mais ça l'a tué des enfants. Donc, la fraude alimentaire est devenue, est-ce que c'est un problème de sécurité alimentaire dans le cas de la mélamine, ou est-ce que c'est un but d'en faire de l'argent, d'en faire un gain? Ici, au Québec, qu'est-ce qu'on entend parler beaucoup? C'est nos matières premières qui valent très cher. Donc, le miel, on en parle beaucoup. On a même fait une étude avec TVA il y a juste après les fêtes sur le miel, justement. Et ce qu'on avait remarqué sur 6 miels testés, où est-ce qu'on a vraiment identifié même jusqu'à l'origine de l'endroit où ça provient, bien sur 6, il y en avait 2 que c'était des miels qui étaient frauduleux. Donc des miels qui avaient rajouté du sirop, un sirop sucré dedans, mais qui était vendu comme un miel 100% pur.
Et de quelle provenance étaient-ils, ces deux miels?
Ce miel, il y avait un miel provenant de Chine et un miel provenant de l'Allemagne.
Ah ouais.
Et des marques quand même connues, là. Donc, qu'on retrouve dans des épiceries.
Mais comment est-ce qu'on peut se protéger contre ça, Mark Hamilton? Je veux dire, moi, je peux pas partir avec mon miel, mais aller retrouver le producteur allemand, puis rentrer dans son usine, puis m'assurer que le miel que j'ai acheté, c'est du vrai miel. Comment on peut se protéger contre ça?
Ben, il y a pas 50 façons. Mais c'est toujours le sentiment de confiance. Si on veut vraiment avoir 100% confiance, il faut faire affaire avec les gens qu'on le sait, qui font directement affaire avec tes producteurs.
Ça, c'est un bon argument. En passant, je t'interromps, là. C'est un bon argument pour l'achat local. On s'entend-tu? Quand t'achètes localement, tu sais de qui t'achètes. C'est sûr qu'il peut, tu sais, je veux dire, un producteur local peut essayer de te frauder. Il peut essayer de t'en passer une petite vite. Mais le problème avec le producteur local, c'est que si jamais il se fait prendre, on sait où le trouver, lui. T'sais?
Puis il y a un problème réputationnel aussi. Ben oui, donc, il peut pas se cacher derrière ça. Et l'autre solution, c'est d'augmenter la certification. Donc, autrement dit, faire une certification d'authentification du produit, ou est-ce que dans les produits purs comme le miel, le sirop d'érable, les fruits de mer, les produits non transformés, qui ont haute valeur ajoutée, mais qui auraient une certification qui approuve hors de tout doute via des analyses, des audits, des certifications qui dit miel 100% pur, prouvé par tel organisme, un peu comme on retrouve des organismes qui vont dire sans gluten, un organisme qui va dire sans arachide, un organisme qui va dire ben, authenticité à 100%. Donc, et que le monde ben, demande cette certification-là. Le seul problème qu'on va avoir, ben, c'est sûr que dans les produits de miel, comme vous venez de dire, ouais, est-ce qu'il y a beaucoup plus de miel que d'abeilles, ça va augmenter le prix du produit. Parce que là, si les gens veulent des produits certifiés, ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de miel sur le marché, parce que les frauduleurs pourront plus en passer une petite vite si la personne exige d'être certifiée. Mais en contrepartie, c'est qu'il risque que les produits vont augmenter et je ne sais pas si le marché va réagir ou est-ce que le miel va augmenter de prix. Est-ce que le sirop d'érable va augmenter de prix parce qu'on est plus exigeant envers la certification? Ça, c'est un autre débat. Mais à part la confiance envers le producteur ou une certification qui prouve que votre produit est non adultéré, il n'y a pas grand moyen d'y arriver.
Oui. L'autre affaire, c'est les moyens de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Là. On s'entend-tu, Marc? Il va falloir. Moi, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, donner plus de moyens à cette agence-là. Parce que, tu sais, tu te rappelles, là, il y a eu des décès dans le centre du Québec. Là. C'est deux personnes, deux aînés qui sont décédés parce qu'ils ont mangé, si je me rappelle bien, c'était des framboises importées de Chine qui contenaient, c'est une bactérie ou un virus, et elles sont décédées. Et moi, veux pas, là, quand on parle de la mondialisation, on parle notamment de la mondialisation de la bouffe. D'ailleurs, il s'agit de regarder dans nos garde-manger par moment pour voir. Maintenant, on a des produits vraiment de partout dans le monde. Là, tu regardes là ton huile d'olive, d'où elle vient. Puis je veux dire, c'est incroyable là, à quel point maintenant l'agroalimentaire est devenu une industrie mondialisée. Et si on veut protéger nos consommateurs, à un moment donné, il va falloir donner plus de moyens à ceux et celles dont c'est le travail de les inspecter, ces aliments qu'on importe et qu'on mange.
Effectivement, moi je pense que la mondialisation, l'importation avance beaucoup plus vite que la capacité qu'on a à les gérer.
Voilà.
Et c'est ce qui arrive, c'est que bon, il y a à peu près 5-6 ans passés ou 10 ans passés, on allait à l'épicerie, il y avait pas de comme aujourd'hui on va à l'épicerie, il y a une allée qui est des produits importés, on commande de tous les pays. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on voit les boutiques spécialisées où est-ce qu'on peut avoir des produits indiens, des produits mexicains, des produits de tout pays, même les produits de grande consommation vient de plusieurs pays. Ça fait pas des lunes là, que c'est comme ça, qui fait que la réglementation, ben, il faudrait qu'elle s'adapte à ça, d'où est-ce qu'on d'accentuer le phénomène de sécurité alimentaire, comme quand on importe des framboises de d'autres pays, où est-ce que eux, ben les framboises sont pas traitées de la même manière qu'ici parce qu'ils utilisent des eaux qui sont recyclées, non pas nécessairement traitées comme nous, qui peut inclure des neurovirus, hein, des virus qui donnent la gastro entre autres.
Mais c'était ça. C'était comment tu l'appelles, un novo virus ou un neurovirus?
Un neurovirus.
C'est ça, les framboises chinoises, c'est un neurovirus, voilà.
Et donc, c'est sûr qu'on augmente le risque d'avoir des bactéries qu'on n'avait pas nécessairement sur une base régulière en commandant des produits d'autres pays, parce que la réglementation est différente d'un pays à l'autre.
Bien sûr.
Donc, ce qui fait que si nous, quand ces produits rentrent chez nous, on les teste pas comme c'était nos propres produits, ben c'est évident qu'on peut en laisser passer. Et c'est là que, justement, l'Agence canadienne de sélection des aliments devra s'adapter. Mais comme on le sait, de changer une virgule, un règlement, des fois, ça peut être très long.
Ouais, puis l'autre problème, c'est qu'on se rend compte que les fraudeurs ont un pied d'avance sur la science. C'est un peu comme les produits dopants, là. Les athlètes qui se dopent avec des produits qui leur permettent d'augmenter leur performance, et t'as l'agence antidopage qui court en arrière puis qui essaie, dans le fond, de rattraper les fraudeurs. C'est un petit peu ça à quoi on assiste dans l'agroalimentaire, n'est-ce pas?
C'est exactement le même parallèle. Quand on découvre qu'un miel, exemple, est adultéré par tel type de sucre et qu'on le documente. Donc, le problème, c'est quand on le découvre, nous, les scientifiques, on documente. On a découvert tel type de sucre. Là, les fraudeurs se disent, wow, ok, on peut plus mettre ce genre de sucre-là parce qu'il va falloir en trouver un autre que les instrumentations sont pas capables de capter parce qu'à un moment donné, ils vont réagir. Un exemple que je peux vous donner de fraude alimentaire, c'est, ça peut être, on parle de miel, de sirop d'érable, on parle des produits purs, mais prenez juste un exemple, une confiture. Prenez une confiture, vous allez me dire, ça vaut moins cher que du sirop d'érable, mais la confiture, le volume est là. Et il y a des confitures que nous demandent de faire des analyses de pureté. Quand on dit de pureté, ils vont dire dans une confiture, on veut 50% de fruits, on veut 15% de sucre de canne, puis 3-4 ingrédients là, qui sont en conservation. Fait que nous demandent authentifier le fruit et dites-nous, est-ce qu'il y en a, c'est vraiment 50%? Et il y a des tests qu'on fait, prenez un exemple, une confiture de pêche, un fruit qui est jaune. Ce qu'on rend compte, c'est que parfois, ils rajoutent de la courge. Au lieu d'être une confiture de pêche, c'est une confiture mixte de courge et de pêche. Parce que la courge coûte beaucoup moins cher que la pêche. Et elle est la même couleur, et la courge, ça goûte rien. Ça goûte pas grand-chose. Donc, on mélange la courge et la pêche. Et à ce moment-là, bon, on peut fausser. Oui, il y en a 50%, mais c'est pas 100% des pêches. Et le sucre, on veut 100% du sucre de canne. Ça, c'est facile à voir. On va dire, c'est pas du sucre de canne, c'est un sucre de maïs, c'est un sucre d'une autre origine. Et on peut dire, ben la fraude alimentaire va même jusqu'à fausser des ingrédients. Donc, c'est pas juste dire, on en a rajouté, on a substitué, c'est qu'on a faussé l'ingrédient de dire, c'est pas une confiture de pêche. C'est une confiture courge et pêche. Donc, c'est très large, la fraude alimentaire.
Oui. Ben, en tout cas, c'est à surveiller, puis on est content que tu nous en parles et on en reparlera au besoin, parce que moi, je dois te dire que c'est un de mes dadas, là, puis c'est une des choses qui me fatigue le plus. Parce que, je veux dire, y a-t-il quelque chose de plus important que les aliments que l'on mange?
Absolument. Puis un autre exemple qui vient à l'idée, c'est pas nous qui l'avons analysé, mais il y a une étude qui a été faite, le riz. Il y a certains types de riz de certains pays où est-ce que, à travers le riz, il y avait des riz composés de plastique comestible, donc un plastique comme du propylène glycol. Donc, ils mélangeaient une certaine quantité de faux riz qui coûte à peu près rien à faire au travers le riz blanc, qui fait qu'à l'œil nu, écoute, ça n'a pas de goût, c'est la même couleur, ça se cuit de la même manière, mais il a été découvert qu'il y avait certains types de riz, à ce temps c'était déclaré, fait que les frauduleurs ont dû arrêter, mais qui rajoutaient du faux riz au travers du riz. Merci. Donc, faut vous dire que ça peut être n'importe où, là.
Ils ont beaucoup d'imagination et on comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Marc Hamilton, microbiologiste et président des laboratoires Environex. Merci, Marc.
Grand plaisir.
À la prochaine.
Dans un instant, un personnage qui travaille dans l'ombre, honoré pour sa carrière exemplaire.